Je pense que vous allez comprendre pourquoi je parle d'un même esprit. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 et au verset 14. Voilà ce qui est écrit. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? » Bélial, c'est Satan. « Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc, de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Vous savez, quand Dieu parle deux fois, à quelques minutes d'intervalle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter particulièrement, pas seulement auditivement, mais écouter avec les oreilles du cœur. Et ce matin, je vous demande d'être particulièrement attentif à la parole de Dieu, parce que c'est, si je puis dire, spécialement la parole qui vous est destinée. Le don spirituel, vous l'avez noté, est en correspondance avec le texte que nous venons de lire. Dieu a quelque chose de spécial à nous dire ce matin, alors prenez-y garde, parce que ce ne sont pas des hommes qui parlent, les hommes ne sont que des porte-voix, des messagers, mais ce n'est pas le messager ou les messagers qui sont importants, c'est le message. Et le message, il vient de Dieu. Dans le prolongement de la méditation que nous avons eue dimanche passé, selon laquelle nous avons rappelé que Dieu était notre Père, nous avons vu dans cette méditation que du fait que Dieu est notre Père résultent des avantages, des privilèges, des bénédictions. Nous qui sommes devenus, par la foi en Jésus-Christ, enfants de notre Dieu, de notre Père céleste. Et à tout privilège correspond une responsabilité. Vous voyez, je crois que l'un des problèmes de notre société moderne, c'est que les gens ne se reconnaissent que des droits, jamais des devoirs. Vous avez noté ça, hein? J'y ai droit, c'est mon droit. Mais à tout droit correspond aussi un devoir. Et dans le domaine spirituel, eh bien, on retrouve ce principe. À tout privilège correspond aussi une responsabilité. Et si notre privilège est grand d'être des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, à ce privilège correspond aussi un certain nombre de responsabilités. Et nous verrons ce matin quelles sont justement les responsabilités qui nous incombent en tant qu'enfants de Dieu. Un seul mot qui peut résumer le texte que nous avons lu là, il y a un instant, le mot « séparation ». Voilà. Séparation. Quand on parle de séparation, il faut bien comprendre évidemment qu'il ne s'agit pas pour nous, chrétiens, de s'exclure totalement, physiquement, du monde. Vous voyez, la vie monacale, sans plus aucun contact avec nos semblables, est certainement une erreur et quelque chose que Dieu ne peut approuver. Jésus, dans sa fameuse prière dite sacerdotale, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, s'adressera au Père en disant « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il dira aussi que nous ne sommes pas du monde et cependant dans le monde, et même envoyés vers le monde. Alors il ne faut pas que nos églises soient des espèces de ghettos spirituels, voyez, hermétiques, refusant l'entrée à ceux qui n'en font pas partie, un petit peu comme des clubs. Non, nos églises doivent être et rester des lieux d'accueil, je dirais des hôpitaux spirituels où les blessés de la vie, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, peuvent venir chercher refuge pour être soignés et secourus par le Seigneur. Et il ne faut pas avoir peur d'être contaminés par ceux de l'extérieur. Vous savez, un jour, dans une église, c'est un pasteur qui nous racontait cela. Le pasteur était devant, quelques instants avant la réunion. Alors un frère est venu, lui a dit, « Frère, la porte est ouverte. » Alors oui, la porte est ouverte. Et puis il est revenu une deuxième fois, ce frère, en disant, « Frère, la porte est ouverte. » Le pasteur a dit, « Oui, la porte est ouverte, c'est pas grave. » Et il est revenu, je crois, une troisième fois en disant, « La porte est ouverte », et il a ajouté cette fois, « Quelqu'un pourrait rentrer. » Vous comprenez ?« Quelqu'un pourrait rentrer. » Ça serait risqué si un pécheur venait nous contaminer. Non, ce n'est pas du tout l'état d'esprit qu'il faut avoir. Vous avez remarqué que Jésus était au milieu des pécheurs, mais cependant pas contaminé par le péché. Et il est écrit que les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui pour l'entendre. Et cependant, l'Écriture dit qu'il était séparé des pécheurs, c'est-à-dire il était différent d'eux. Il s'agit donc avant tout que s'opère dans nos vies une séparation spirituelle et morale. Ah, voilà la vraie séparation. Cependant, pour équilibrer mon propos, pour équilibrer ce qui vient d'être dit précédemment, eh bien je voudrais préciser que tout de même, malgré tout, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que vous serez d'accord, il y a des lieux à ne pas côtoyer, oui ou non? Il y a des gens à ne pas fréquenter, oui ou non? L'Écriture dit que les mauvaises compagnies corrompent les pécheurs. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er, au verset 10, le rédacteur du texte sacré dira « Si des pécheurs veulent te séduire, vous voyez ?» Bah, te laisse pas entraîner, mon gars, quoi. Te laisse pas faire, te laisse pas mener par le bout du nez. Ne crois pas celui qui a parlé le dernier. Ne te laisse pas séduire. Dans le livre des Proverbes encore, au chapitre 7, verset 21, il est question d'un jeune homme qui s'est laissé entraîner par une femme de mauvaise vie. Et il dit ceci, Proverbes 7, verset 21, « Elle le séduisit à force de paroles. » Voyez. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Donc il y a des gens dont il faut eh bien, se garder, se méfier. Il y a aussi des activités à rejeter, quoi. Et c'est pas pour rien que l'Écriture dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Ailleurs, il est dit que nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde. Voilà la séparation. Il y a aussi des associations à ne pas contracter. Par exemple, en affaires, voyez, quand un chrétien s'associe avec un incroyant, par exemple, pour créer une société sur le plan professionnel, c'est une erreur. Et c'est même, je prends la responsabilité de ce que je dis à la lumière des textes qu'on a lus tout à l'heure, une non seulement une erreur, mais une désobéissance flagrante à la parole de Dieu qui sera lourde de conséquences. L'Écriture dit que, on l'a lu, le croyant, le fidèle, il n'a rien à voir, rien à faire de s'acoquiner, pardonnez-moi l'expression, avec l'infidèle, avec le pécheur, avec l'incroyant. Vous voyez, si on monte une affaire ensemble avec un qui est païen, un qui est chrétien, ça ne marchera jamais. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Parce que celui qui n'a aucun sens moral authentique, conscience spirituelle aiguisée par la parole de Dieu, ça ne le dérangera pas, lui, de tricher, de magouiller, etc. Et le chrétien va être gêné aux entournures, j'espère. et ça ne pourra pas marcher. C'est vrai dans le domaine professionnel, c'est vrai aussi, faut-il le préciser, dans le domaine sentimental. Quelle erreur de prendre le risque d'unir sa vie à un incroyant, à quelqu'un qui ne partage pas notre foi. Quelle erreur d'unir sa vie à quelqu'un qui n'est pas réellement converti à Christ. Vous savez, dans l'Ancien Testament déjà, les Israélites avaient reçu de Dieu l'interdiction formelle de s'associer, de s'unir par les liens du mariage avec des peuples païens. Le problème, c'est que les Israélites, les Juifs, n'ont tenu aucun compte de l'enseignement divin, de la parole de Dieu, et ils se sont mariés avec des filles des pays alentours qui étaient elles-mêmes des filles idolâtres, quoi. Dans ces peuples, chacun avait son Dieu, voyez, il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, il est arrivé que les Israélites se sont laissés entraîner eux-mêmes dans l'idolâtrie. L'exemple le plus fameux, le plus tristement célèbre, c'est l'exemple de Salomon. Je lisais ces jours-ci l'histoire de Salomon. Mais ça démarre, c'est formidable, quoi. Ce jeune homme, parce que les historiens disent qu'il devait avoir une vingtaine d'années quand il est monté sur le trône, voyez, succédait à David, le royaume était pacifié, tout tournait bien, il aimait Dieu et Dieu l'aimait. Ah, il construit le temple, et Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, demande ce que tu veux, donne-moi la sagesse. Après, quand le temple est construit, fais une prière. Formidable. Et Dieu lui promet d'établir son royaume d'une manière certaine et d'une manière perpétuelle. Et puis, quelques chapitres après, patatrac, cet homme qui avait élevé un temple en l'honneur de l'Éternel, le voilà Tipac, quelques dizaines d'années d'après, sur la montagne en face du temple, il bâtit des temples aux idoles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait voulu faire plaisir à ces femmes, trop nombreuses femmes, notamment femmes païennes avec lesquelles il avait contracté mariage ou union plus ou moins officielle, qui étaient elles-mêmes des idolâtres, et ce n'est pas Salomon qui les a entraînées du bon côté, ce sont elles qui l'ont entraîné du mauvais. Et il est dit qu'entraîné par l'amour, il s'est attaché à toutes ces idoles, vous voyez. Il faut en prendre de la graine. Mon gars, ma fille, si tu prends le risque de te marier avec un incroyant, tu vas droit dans le mur. Excusez-moi de parler comme ça. Vous savez, quand j'étais enfant, nous avions une monitrice d'école de dimanche. C'est vrai que c'était une jolie fille. Alors, elle a plu, hein. C'est pas difficile de plaire quand on est beau. Et elle a commencé à fréquenter un gars qui n'était pas un chrétien, loin s'en faut. Alors, tant qu'ils n'ont pas été mariés, ça a été un vrai toutou, hein. Tous les cultes, il était là avec elle. À partir du moment où ils ont été mariés, ni plus on l'a vu lui, ni plus on l'a vu elle. Elle est revenue des années après, complètement brisée, démolie, cassée. Ça avait été une jolie fille, mais je vous dis que même sa beauté physique s'était flétrie. Quelque part, elle avait tout perdu. Dieu fait grâce. Dieu pardonne, c'est vrai. Mais que de gâchis et de temps perdu, voyez. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alors revenons maintenant encore à cette idée de séparation spirituelle. C'est-à-dire séparation d'avec le péché et de tout ce qui y conduit. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas péchés à proprement parler, si l'on veut, mais qui conduisent au péché. Un jour, dans une église, ce n'est pas ici, rassurez-vous, deux jeunes m'ont dit, mais pasteur, nous on va en boîte de nuit, deux gars baptisés, hein, et on ne voit pas vraiment où est le problème. Ah bon? On dit non, on ne va pas faire le mal là-dedans. On y va parce qu'on aime la musique, soit. Mais même si on n'y va pas avec de mauvaises intentions, même si tu ne cours pas vers le péché, dans certains lieux, il va venir vers toi, oui ou non. Et le mieux pour ne pas tomber dans le panneau, c'est de s'en tenir éloigné, oui ou non. Le mieux pour ne pas tomber dans le précipice, c'est de s'en tenir le plus loin possible, oui ou non. Et bien voilà. Et ces garçons, en particulier l'un d'entre eux, peu de temps après, il avait complètement chavirer. Hein. Pour préciser cette pensée, vous voyez, dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 15, il est écrit ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 15. On ne peut pas l'afficher, ça. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, comprenons bien. Quand il est dit, n'aimez pas le monde, ce n'est pas les gens en tant que tels qu'il ne faut pas aimer. Bien sûr qu'il faut aimer nos semblables, chrétiens ou pas, l'humanité, il faut l'aimer, Dieu l'aime, alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, dit l'Écriture. Mais c'est l'état d'esprit, la mentalité, la forme de pensée, le style de vie qui se pratique dans le monde que nous ne devons pas aimer, nous chrétiens, et dont nous devons nous séparer. Et trois éléments nous sont donnés là. La convoitise de la chair, c'est la sensualité. La convoitise des yeux, c'est la cupidité. Et l'orgueil de la vie, ben, ma foi, c'est l'orgueil, la vanité. Alors la convoitise de la chair, la sensualité. Hein? Même de grands leaders spirituels se sont laissés piéger. Vous avez remarqué? Il y a tout dans la parole. Hein? Un homme comme Samson, rempli du Saint-Esprit qu'il était, nous le voyons aboutir dans les bras de Delila. Un homme comme David, mais aussi un homme de Dieu, nous le voyons faire revenir vers lui Bathsheba, qui pourtant était une femme mariée, pour coucher avec elle. Quand on lit ça, mes amis, on se dit, mais comment en sont-ils arrivés là? Mais ça, la convoitise de la chair. Vous voyez, quelque part, à un certain moment, le ver est entré dans le fruit. Parce que, comme je le disais à quelqu'un récemment, hein, je n'ai pas inventé ça, mais je l'ai entendu quelque part, on ne chute pas parce qu'on pêche, mais on pêche parce qu'on a déjà chuté intérieurement. Vous comprenez? On ne chute pas au moment où on pêche, au moment où on commet le péché. Mais on pêche, on commet visiblement, extérieurement le péché, parce que déjà au fond de notre cœur, la chute morale et spirituelle s'est produite. Et pour Samson et pour David, c'est ce qui s'est passé. Alors si ça s'est passé pour eux, si c'est écrit là, c'est pour nous mettre en garde. Parce qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres. C'est vrai ou pas? On a en vous, en moi, tous les ingrédients pour faire, je vous le garantis, les pires bêtises. Vous savez ça? Et sans la grâce de Dieu, on peut faire des catastrophes. Alors Seigneur, fais-nous grâce. Et il veut nous faire grâce. Il veut nous faire grâce, voyez. Alors on parle de Delila, de Bathsheba, mais moi je vous dis qu'il existe des Delila et des Bathsheba modernes. Et puis ça peut se conjuguer aussi au masculin, parce que ce n'est pas toujours les femmes qui sont des séductrices. Il y a aussi des hommes qui sont des séducteurs. Et nous devons, en tant que chrétiens, prendre garde. L'infidélité conjugale. Vous savez que la Bible parle de ça. Aujourd'hui c'est banal. Il y a quelques années de cela, déjà c'est vieux, mais il y avait eu à la télé une émission à propos du sida. Alors cette émission, il y avait l'abbé Pierre. Bon, je ne fais pas la promo de l'abbé Pierre. Hein. Mais c'est pour dire quoi. À un moment, cet homme a émis les dires, ma foi, qui tient la route. Il a dit, mais quand même, le meilleur moyen de se préserver du sida, c'est de rester fidèle en amour. Waouh, qu'est-ce qu'il n'a pas eu dit? Il s'est fait huer. Hué par tous ceux qui étaient sur le plateau de télévision. Ça passe pas, ça. La fidélité dans le domaine conjugal. Mais si ça passe pas dans le monde, ça doit passer dans l'Église. Ça doit demeurer comme ça. Regardez ce que le prophète Malachi, ou Malachi, je ne sais pas comment il faut dire, hein, nous dit dans son livre au chapitre 2, je le lis. Voilà. Vous couvrez de larmes, dit l'Éternel, l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, qu'il ne plus rien agréer de vos mains. Vous voyez, il pleurnichait, mais c'était des larmes de crocodile. Hein. Et vous dites pourquoi? Pourquoi la prière, elle n'est pas exaucée, Seigneur? Alors, Dieu dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et un petit peu plus loin, Seigneur poursuit en disant, prenez donc garde en votre esprit, parce qu'avant de passer à l'acte, ça commence là, et ça commence là. En votre esprit, prenez garde en votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde, il répète, en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Seigneur, garde-nous dans la pureté. Amen. Ça doit être notre prière. Nous qui sommes mariés, ne croyez pas que on est là. On n'est pas encore comme les anges. Hein. On n'est pas encore dans le ciel. On est sur la terre et il faut veiller et se tenir tout près du Seigneur pour ne pas se laisser entraîner là où peut-être, même sûrement, nous ne voudrions pas. Allez, je m'adresse aux jeunes pour signaler le danger du flirt. On ne joue pas à l'amour. Quand on s'engage sur cette pente, elle est glissante et c'est la meilleure manière d'aller droit à la catastrophe. Après, on pleurera. Vaut mieux pleurer avant, en s'humiliant devant Dieu. Voyez ? Avant de faire part de tes sentiments à un gars ou une fille, prends le temps, on se calme d'abord. On cherche Dieu. On prie, on attend, au besoin, on demande conseil, pas à des écervelés, mais à des gens sérieux qui ont un peu de jugeote et puis qui ont pris un peu de bouteille. Et ensuite, on déclare ce sentiment. On n'est ni des bourdons, ni des abeilles, vous comprenez, qui vont butiner de fleur en fleur. D'ailleurs, flirter, ça vient de là. Vous ne saviez pas ça? En ancien français, on disait « compter fleurette ». Les Anglais nous ont pris l'expression pour faire le verbe, je crois, « tout flirt ». Et nous, on a francisé le verbe à l'autre sens en disant « flirter ». C'est la même chose. On ne joue pas avec ça. Tant pis si dans ton université, dans ton lycée, c'est pas dans ton collège peut-être pour les plus jeunes, sur ton lieu de travail, on te considère comme un demeuré ou une demeurée, une attardée ou je sais pas quoi. Non ! Garde-toi pur pour ton Dieu. Amen. Et même quand on s'aime, et même quand il s'agit de fréquentations sérieuses, et même quand le mariage se profile à l'horizon, qu'on s'est engagé mutuellement, verbalement tout au moins, on se garde pur jusqu'à l'heure du mariage. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Vous avez compris, les gars, les filles? Mettez-vous ça dans la tête, dans le crâne et dans le cœur. Parce que ça, ce que je vous dis, c'est pas l'opinion d'un vieux, c'est l'opinion de Dieu. C'est l'opinion de Dieu. Parce qu'après, ceux qui ont fait la bêtise, on les ramasse à la petite cueillère, vous savez. Ils sont cassés, ils sont brisés. On a connu ça. On a connu ça. Et parfois, on répare les dégâts. Le mariage a lieu quand même. Mais des fois, des traumatismes subsistent, même après le mariage. Et il y a comme une blessure, il y a comme une déception, parce qu'on se dit, on n'a pas fait comme on aurait dû faire. On n'a pas su attendre. Et ça, ça demeure. Dieu pardonne, c'est vrai. Mais des fois, on a du mal à se pardonner à soi-même les bêtises qu'on a faites. Alors ne prenez pas ce risque. Ne prenez pas ce risque. Si je vous dis ça, avec une certaine énergie, c'est parce que je vous aime de l'amour du Seigneur. De l'amour du Seigneur. Oui. Joseph, lui, en Égypte là-bas, vous savez, il a su conserver la crainte de Dieu dans son cœur et il a su résister à la pression, à l'influence, à la tentation, à la sollicitation du péché, cette femme perverse qui chaque jour revenait à la charge en lui disant « couche avec moi ». Pourtant, dites, il était jeune, il était beau. Quand on est jeune, on a toujours quelque chose de beau, de plaisant, la fraîcheur de la jeunesse, au moins ça. Et il était célibataire, il était seul. Il aurait pu se trouver des excuses. Je suis loin de papa, de maman. Enfin, maman était morte, mais... Et il n'avait pas d'église. Il n'avait pas de pasteur. Il n'avait même pas de Bible, Joseph. Il n'avait pas de culte du dimanche matin. Mais il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et il est dit qu'il refusa de coucher avec elle. Ce n'est pas évident, je le sais. Quand on est jeune, quand on est beau ou belle, quand on est célibataire, de résister dans ce monde. Il y a tellement de sollicitations, de pressions, d'influences, d'appels de la chair aussi, à ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de nous. Mais il faut se jeter aux pieds du Seigneur pour rester dans la crainte de Dieu. Et Dieu est capable de vous garder pur dans un monde qui est pourri. Il est capable de le faire par son esprit qui demeure en vous. Que son nom soit béni. Convoitise de la chair. La convoitise des yeux. De la cupidité, je dis. Le monde veut nous faire croire que le bonheur consiste dans l'accumulation des richesses et des biens matériels. Si c'est possible, eh bien que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas contre la richesse en soi, ce n'est pas un péché. Mais faire de ça l'objectif prioritaire de notre vie, c'est un péché. Et le monde veut nous en tirer dans cet état d'esprit, le consumérisme. Ce n'est pas possible, hein. Regardez toutes les pubs qui passent à la télé. Tu ne peux pas regarder un bon film au milieu, au moment où il y a l'action... qui te tient en haleine, bim, badaboum, on te vend une voiture, une paire de chaussures, et puis ça dure. Toute notre civilisation occidentale, tout au moins, est bâtie sur ce système. Eh bien, les chrétiens, quelque part, ils doivent être hors système, pas complètement, mais moins partiellement, ne pas se laisser contaminer par cet état d'esprit. Non, le bonheur n'est pas là-dedans, non. Je ne serai pas plus heureux si j'ai un nouveau smartphone. Non, si je peux l'avoir, tant mieux. Et si je n'en ai pas, eh bien, que Dieu soit béni. Je me contente de ce que j'ai et je suis heureux comme ça. Parce que c'est le Seigneur qui est la source de mon bonheur. Vous savez, en matière de cupidité, de convoitise des yeux, ce qu'on possède, ce qu'on voit, ce qu'on a... L'exemple, là aussi, le plus tristement célèbre, c'est le cas de Judas. Quand il a démarré sa carrière d'apôtre, si on lui avait dit, Judas, tu sais quoi? Dans 3 ans, tu vas vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a dit, toi, ça ne va pas à la tête, jamais de la vie. Et pourtant, c'est arrivé parce que là aussi, le ver était dans la pomme. Alors que Dieu nous garde. Vous voyez? Et si quelque part dans ces domaines, on s'aperçoit que quand même, il y a comme une attraction qui s'opère, vous voyez, insidieusement, convoitise la chair, convoitise des yeux, il faut se jeter aux pieds du Seigneur, dire Seigneur, tu nies dans ta parole que la chair avec ses œuvres, sa place, c'est sur la croix. Alors qu'il en soit ainsi dans ma vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, l'orgueil. Mon Dieu, l'orgueil. Vous savez quoi, on en a chacun une bonne dose. Il y a un verset dans le livre des Proverbes qui dit ceci, chapitre 14, verset 6. L'orgueilleux est arrogant et plein de sécurité. Vous voyez, il est sûr de lui, l'orgueilleux. Il ne craint rien, il ne craint personne, il est sûr de lui. Il est arrogant. L'orgueil nous rend tellement sûrs de nous qu'on devient arrogant. Alors, quand on est arrogant, on n'écoute plus les conseils, les avertissements, ni les mises en garde. Voilà, le roi Ozias dans la parole nomme encore que Dieu avait béni. L'Écriture dit que quand il devint puissant, son cœur s'éleva, il est devenu orgueilleux, son cœur s'éleva pour le perdre. Et lui qui était roi, c'était déjà pas mal, a voulu s'approprier les fonctions de sacrificateur. Et Dieu avait séparé les deux fonctions d'une manière particulière, le roi d'un côté, le sacrificateur de l'autre. Il s'est permis d'entrer dans le temple pour offrir à l'Éternel le parfum dans le temple, ce qui était le rôle du sacrificateur. Et des sacrificateurs sont arrivés en lui disant « Tu n'as pas le droit, roi Ozias. Tu pèches contre l'Éternel et ça ne tournera pas à ton avantage. Ça ne tournera pas, ça tournera à ton déshonneur. » Voyez ? Si Ozias avait dit « C'est vrai, ok, écoutez les frères, j'ai commis une erreur, que Dieu me pardonne. » Je suis sûr que Dieu lui aurait fait grâce. Mais la Bible dit qu'il s'est mis en colère contre les sacrificateurs. Voyez ? Il n'a pas accepté. Et au moment où il s'est mis en colère, la lèpre a éclaté sur son front. Dans le temple, dites. On l'a mis dehors, d'ailleurs il s'est mis dehors tout seul, et il a fini ses jours à l'écart, dans une maison, tout seul, le roi lépreux. Le roi lépreux. Pourquoi ? L'orgueil. Vous avez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Jésus qui lui dit, Pierre, Pierre, avant que le coq chante cette nuit, tu m'auras renié trois fois quand même. Et il connaissait la perspicacité du Seigneur Jésus. Il connaissait Pierre, il l'avait souvent vérifié. La pertinence des paroles prophétiques du Seigneur. Il aurait dû se jeter à ses genoux en disant « Seigneur, que cela n'arrive pas, fais-moi grâce, aide-moi, secours-moi. » Mais non, oh, jamais de la vie, Seigneur. Oh, tu peux compter sur moi. S'il faut aller en prison, s'il faut aller à la mort, j'irai. Voyez, il n'a tenu aucun compte. Qu'est-ce que c'est qui produisait ça dans son cœur ? L'orgueil. L'orgueil. Et il a mordu la poussière. Et il a pleuré. Heureusement qu'il a pleuré. Mais ce fut une leçon pour le restant de ses jours. Que l'orgueil ne nous atteigne pas. Voilà tout ce don. Voyez, il faut se séparer par le secours et la grâce de Dieu. Quand nous faisons appel à lui, quand nous nous réfugions en lui avec une pleine confiance, il est capable de nous garder. Amen. Il est capable de nous permettre d'opérer là cette séparation dans notre vie. Vous savez, l'Écriture dit dans l'Épître aux Hébreux que la parole de Dieu, c'est une épée efficace, à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, elle sépare jointure et moelle, parce que nulle créature n'est cachée devant lui. La parole de Dieu, c'est le scalpel, c'est le bistouri de Dieu. Et il faut lui reconnaître et lui laisser ce pouvoir qu'elle pénètre dans notre cœur. Ça peut être douloureux, aïe aïe aïe, si on vous opérait sans anesthésie, ça ferait mal. Mais vous savez quoi ? Sur le plan spirituel, des fois, Dieu opère sans anesthésie. Et c'est douloureux, mais c'est bénéfique. Vous savez qu'il y a des tumeurs malignes, des cancers, qui sont indolores. Au moment où tu commences à sentir les douleurs, c'est trop tard. Supposez qu'un scanner révèle que vous êtes atteint d'une tumeur comme ça. Et vous dites au médecin, mais je ne souffre pas, pas de problème. Mais madame, monsieur, même si vous ne souffrez pas, il faut opérer tout de suite. Pour le moment, il est temps. Mais si vous tardez trop, aïe, 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 le risque est élevé. Si vous êtes raisonnable, alors même que vous n'avez aucune douleur, pas encore. Et si vous laissez le geste chirurgical s'accomplir, ça vous sauvera la vie. Eh bien, ce matin, si besoin est, laissez le chirurgien divin opérer dans votre cœur. Dieu a parlé ce matin, vous comprenez ça ? Deux fois qu'il dit la même chose. Ça vous est arrivé des fois, des enfants, vos enfants, de dire « Je t'ai déjà dit que… » Non, vous n'avez pas jamais dit ça, moi quand j'avais mes filles gamines. « je t'ai déjà dit qu'il faut ranger ta chambre, il faut ceci, il faut cela, il faut faire tes devoirs. Je t'ai déjà dit. Ben, c'est quand Dieu répète comme ça, c'est qu'il nous dit, je t'ai déjà dit. Prends-en de la graine. Tire-en profit. Mets ça dans ton cœur, dans ta tête, Seigneur. Aide-moi de nous à nous séparer. À nous séparer, là, des convoitises de la chair, des convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie. Mais, allez, quelques minutes encore. La séparation aussi contient également l'idée de mise à part. Il ne s'agit pas simplement de se séparer du mal, mais il s'agit, en contrepartie, de se mettre à part pour Dieu, pour son service, pour sa gloire. Regardez, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, voici ce qui est écrit, c'est important de le lire. Première épître de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, et le verset 19. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, c'est affiché. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à qui ? À Dieu. » À Dieu. Nous sommes mis à part pour Dieu, pour son service, pour sa gloire. Est-ce que nous avons bien compris cela ? C'est aussi cela le résultat de notre vocation d'enfant de Dieu. Comme ce texte nous le dit, le Saint-Esprit vit en nous. Notre corps est devenu son temple. Et le Saint-Esprit qui est en nous est un sceau, nous a scellés, et ce sceau signale que nous sommes la propriété de Dieu, parce que nous avons été acquis, parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Je ne peux pas, je ne peux plus disposer de ma vie comme je l'entends. Mais je dois plutôt la mettre à la disposition de Dieu. Autrefois, mon slogan favori était certainement « Je fais ce que je veux ». Vous ne l'avez jamais dit ça ? « Je fais ce que je veux ». Mais maintenant, mon mot d'ordre doit devenir « Seigneur ta grâce, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Je vous confesse qu'il y a eu dans ma vie de croyant des moments où j'ai choisi, hélas, à ma honte, ma volonté plutôt que la sienne. Je n'ai pas perdu mon salut, hein. Je n'étais pas sur le chemin de l'enfer. Mais dans les cas où ça s'est produit, je m'en suis mordu les doigts et même plus. Et parfois, les effets, les conséquences, je n'ai pas perdu mon salut, mais les effets ont duré des années. Vous voyez ? Parce que j'ai voulu jouer la forte tête. Et Dieu, il a une tête plus forte que la mienne, hein, et que la vôtre. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Par contre, quand même, il n'y a pas eu que ça. Les fois où, par la grâce du Seigneur, j'ai choisi de faire la volonté de Dieu, je m'en suis bien porté. Je m'en suis bien porté. Voyez, dans nos choix, dans nos décisions, il faut laisser la priorité à la volonté de Dieu. Cette volonté, il faut la consulter. 9 fois sur 10, la volonté de Dieu, elle est exprimée dans sa parole. Et quand sur un point particulier, peut-être elle n'est pas clairement exprimée dans la parole, il faut prier, il faut chercher la direction du Seigneur pour qu'il nous donne sa sagesse. On s'en trouvera bien, on s'en trouvera bien. Sinon, on va au-devant de beaucoup de mésaventures. Alors ne dites pas, oui, mais ça, vous ne vous appartenez point vous-même. C'est bon pour les serviteurs de Dieu. Comme si on n'était pas tous serviteurs de Dieu. C'est bon pour les missionnaires. Eh bien, voyez, même sur votre lieu de travail, vous devez vous considérer comme un ou une missionnaire. Vous êtes là, à votre job, pas simplement pour gagner votre croûte, mais vous êtes là, un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce n'est pas sorti de mon imagination, c'est la parole qui le dit. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 22, voici ce que le Seigneur déclare. Colossiens, chapitre 3, verset 22. Serviteurs, bon, on peut dire employés aujourd'hui, hein, obéissant toutes choses à vos maîtres, on peut dire à vos employeurs, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Écoutez ça. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, dans ton job, par ton job. Ce n'est pas seulement les hommes, ton supérieur hiérarchique qui est pénible, que tu sers, mais c'est le Seigneur. Et sur ton lieu de travail, tu es un missionnaire, tu es un envoyé. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Ça fait partie, voyez, de la séparation spirituelle, du changement de mentalité qui doit s'opérer en nous. La conversion, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1er, il est dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde donc, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous savez quoi, quand on se convertit de cœur, Dieu y renouvelle même nos méninges, nos neurones. Et on apprend à penser, à réfléchir, à concevoir et à vivre notre vie d'une manière totalement différente de celle dont on l'a pensée, on l'a concevée, on l'a menée auparavant. Ça va jusque-là. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors, il faut mettre notre vie à la disposition du Seigneur. Vous le glorifierez faisant ainsi et vous connaîtrez la vraie réussite. Comment vous voulez finir? Comment est-ce que je veux finir ma vie? Est-ce que je veux jeter un regard en arrière quand viendra pour moi les heures dernières en disant j'ai tout raté? Ou alors, est-ce que je veux dire, Seigneur, tout n'a pas été parfait, loin s'en faut, j'aurais voulu mieux faire, mais par ta grâce quand même, tu as conduit mes pas et tu m'as permis, c'est pas moi, c'est toi qui l'as fait, de réussir ma vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, séparez-vous, dit le Seigneur, telle est sa volonté. Que son nom soit béni. Prions. Amen.